Autre radio, autre culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. À l'occasion des Audio Days 2011, nous retrouvons Klaus Blaskies pour la seconde partie de la conférence « L'ambisonique ou le double processus créatif ».
Alors je fais de la prise de son musique. Je voudrais revenir à des choses fondamentales. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui habituellement? Comment fait-on de la prise de son, de la production musicale? On fait comme il faut. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles? Qu'est-ce qu'on voit sur les concerts ou dans les studios quand on se balade ou quand on achète des vidéos? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on fait ce qui a été une idée très intéressante, même géniale. C'est nos camarades, les Beatles, avec un ingénieur du son, Jeff Emerick, que vous avez peut-être pu voir récemment. Je crois qu'il va revenir parce qu'il est très intéressant et, de ce point de vue-là. Et puis un producteur. Ils sont arrivés, pas Beatles, Beatles en devenir. On leur a dit, mettez-vous là, on va vous jouer et on vous enregistre. Ah oui, mais non, vous jouez, on vous enregistre, on fait comme il faut, à la manière ancienne, c'est-à-dire on va mettre des micros assez loin pour ne pas les casser, mono, parce que évidemment la production, ça va sur des supports mono, 78 tours ou 45 tours, donc la stéréo, c'est pas très intéressant, et de toute façon, les gens n'ont pas de quoi écouter en stéréo. Alors, à la rigueur, on peut faire des... Je ne sais pas si vous avez connu, il y a peut-être des anciens qui ont des 33 tours compatibles stéréo, ce qui est assez drôle. Donc, gravé en profondeur et puis gravé en largeur. Je reviens à ces Beatles. Donc, taisez-vous, mettez-vous là, jouez votre truc, on va faire les prises. Et puis après, ça va aller sur un 45 tours. Et puis, éventuellement, si ça marche dans un an, ce qui a été le cas... Ben on va les réunir, on va les mettre sur un 33 tours, éventuellement compatible, éventuellement stéréo. Donc les premiers enregistrements des Beatles, c'est de la mono, c'est du mixage mono. Mais c'est aussi de la prise de son mono. Les choses vont changer, parce que les Beatles, leur producteur George Martin, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on est dans un studio indépendant. Mais à l'époque, les maisons de disques avaient le pouvoir total sur les artistes et ils avaient des départements. Alors, on faisait la gravure, on faisait ce qu'on appelait le mastering, la gravure, et on avait aussi un département qui était un laboratoire de prise de son, qui était le studio. Et le studio était le studio qui appartenait à la maison de disques, avec des employés, ingénieurs du son, techniciens, producteurs, musiciens éventuellement. Et donc, ils n'avaient pas leur mot à dire, ils faisaient leur travail plus ou moins bien, ils étaient au chaud et avec les méthodes traditionnelles, qui n'étaient pas si anciennes que ça, mais la chose va changer très vite avec le pouvoir que va acquérir ce trio Beatles, producteur et ingénieur du son, même si George Martin est resté EMI, Jeff Emerick était ingénieur maison EMI, les Beatles ont acquis un certain pouvoir et ils sont passés du studio à la cabine, puisqu'ils étaient coproducteurs. Et ils ont pu mettre à terme les pieds sur la console, ce qui était une chose impensable avant. Vous ne rentrez pas dans la cabine. Quand vous allez chez votre dentiste, il vous fait un moule et il envoie ce moule au prothésiste. Vous n'allez pas, vous, aller au-dessus de l'épaule du prothésiste pour surveiller si votre future prothèse va être bien faite. Vous n'avez pas de raison, vous, en tant qu'artiste, d'aller dans la cabine pour surveiller si le son est bien pris. Alors, je vais aller un peu vite là-dessus, mais non seulement ils vont avoir du pouvoir, mais ils vont s'apercevoir, vous connaissez un peu l'histoire des Beatles, ils font de la scène, on ne les entend pas, les gens crient, il n'y a pas de sono, donc ils arrêtent de faire de la scène, ce n'est plus possible. Donc, ils se retrouvent uniquement en studio, ils continuent de composer. Et puis, ils vont nous faire passer de l'enregistrement qui est une empreinte, qui est une image de ce qui est joué dans la nature, dans les salles de concert, ailleurs, dans une baignoire, à une production qui va donner lieu à un objet sonore spécifique qui n'est plus une empreinte, qui est quelque chose, qui est une œuvre d'art en soi, qui est de la matière plutôt que qu'un support. Et donc ils vont composer, ils vont commencer à tripoter, aller mais touchez pas ça, ces micros-là. Mais si, mais nous on est les Beatles quand même. Et donc ils vont aller non seulement à la cabine, mais ils vont commencer à tripoter, à dire mal micro là, c'est bien pour la grosse caisse, mais nous on aimerait bien le rapprocher et puis jusqu'à le mettre à l'intérieur. Enfin, pas avec Ringo Starr parce qu'il avait une peau de résonance, mais voilà, ils commencent à rapprocher les micros et aux grandes dames de tous les techniciens en blues qui disent ah, mais oui, mais ça c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas... Et puis nous on va se, il faut que je fasse une demande en 7 exemplaires, que j'aille en référer à la direction, enfin à mon supérieur, lequel va aller voir le supérieur, lequel... Et ils ont finalement fait éclater ça. C'est génial, parce qu'ils ont commencé à tripoter les égalisateurs, les compresseurs, qui étaient là pour faire rentrer une équipe de rugby dans une cabine téléphonique. Eux, ils font du son avec, ils se sont amusés. C'est fabuleux, sauf qu'on en est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait encore la même bidouille, qui est génial, mais c'est devenu la norme, c'est devenu la référence. Si on fait autre chose, est-ce que vous faites autre chose? Est-ce qu'on essaye autre chose? Je vois en studio encore aujourd'hui des overhead, c'est-à-dire pas forcément des micros pour prendre les cymbales, mais pour prendre la batterie en stéréo, qui sont installés n'importe comment dans les studios. Sur scène, on n'en parle même pas. Donc après, on se demande comment le résultat ne peut pas être un peu n'importe quoi. Ce n'importe quoi est devenu une norme, on s'est habitué, notre oreille est faite à ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, dans les productions, pas qu'aujourd'hui, mais depuis 45 ans, donc, on ne peut entendre que de la mono dirigée. Alors, j'en arrive à l'ambisonique. Un studio, je trouve que maintenant, c'est génial. On est content, on y est, on est au chaud, on est abrité par des murs en béton. Il y a un traitement acoustique. Mais est-ce qu'on n'est pas... je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez des films italiens en noir et blanc néo-réalistes, vous savez, où le son était fait en studio. Il n'y avait aucun son réel. Quand on regarde ça... Et qu'on écoute ça, bon, c'est exotique, on fait un voyage dans le temps, mais c'est épouvantable. Enfin, faites l'expérience, c'est incroyable. Moi, j'étouffe en 30 secondes. Eh ben, ce que j'entends sortir des studios, ça me fait étouffer aussi. Genre, il faudrait pousser les murs, les faire craquer. Est-ce que la musique est faite pour être dans un laboratoire uniquement, au moins au niveau de sa captation? Je pose la question, au moins qu'on ait le choix, on n'a pas le choix, personnellement, je ne suis pas le seul, mais j'étais obligé de me battre pour prouver qu'il y avait éventuellement d'autres méthodes, qui n'étaient pas forcément des méthodes universelles non plus, hein, voir l'univers à l'aune de l'ambisonique, ce serait aussi peut-être, ben voilà, il y a les gourous de l'ambisonique, voilà, ils vont guérir le cancer avec l'ambisonique, c'est génial, ils ont fait des gélules ambisoniques, vous pouvez les acheter... avec la croix du Nord. Alors, revenir à la pratique, dans un premier temps, faire sortir des musiciens du studio. Ah bah oui, on va faire un live. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un concert. Un concert sonorisé, frontal, avec des enceintes devant, public. Bon, est-ce que c'est ça, la musique, nécessairement? Oui, au XXe siècle, la grande majorité des musiques populaires, c'est ça. Sauf que maintenant, vous allez... Vous allez voir les Rolling Stones ou d'autres, vous êtes à 200 mètres de la scène, et puis vous entendez une sono qui est digne du pire des autoradios. C'est un petit peu fort, bon, c'est pas trop grave, mais c'est surtout que vous ne voyez rien non plus, puisque vous êtes trop loin pour voir les écrans géants proprement. Donc on se demande si le concert, ça a encore un sens. Bon, quand c'était un festival et qu'on était en 69 et qu'on s'aimait tous avec des fleurs, ça pouvait être intéressant, et puis d'aller nager dans la boue, et c'était un événement. Mais pour la musique, c'était pas, c'est pas franchement l'idéal. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire comme captation de champs sonores, plutôt que de mettre des micros partout, dans les narines, dans les poches, et puis mixer ça, compresser ça, égaliser ça, parce qu'on est obligé de le faire quand vous faites de la prise de proximité. Ça a des timbres tellement, vous avez tellement de problèmes de transitoire que vous êtes obligé de compresser, limiter, à la prise. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas assez de niveau, enfin, et de toute façon, vous ne vous reconnaissez pas. Donc vous faites à la manière de comme il faut. Dans une prise de batterie, les pauvres batteurs, moi je suis un percussionniste, celui qui reconnaît ses enfants en écoutant un mixage, alors on s'est dit, bah, maintenant c'est comme ça qu'il faut, bah, c'est comme ça, bon, tais-toi. Oui, mais non, tais-toi, tu écoutes et c'est ça. C'est bien ou pas, c'est génial ou pas, c'est musical, agréable ou pas, mais c'est pas la peine qu'il s'achète une batterie, et c'est pas la peine qu'il s'achète une batterie différente de l'autre batteur, puisqu'il va sonner pareil de toute façon, puisqu'on va lui coller les mêmes micros, on va l'égaliser de la même manière, on va les coller au même endroit surtout, les micros, on va compresser, et on va mixer, et on va recompresser, etc. Donc je me suis dit, il faut aller là où les musiciens jouent, mais les musiciens jouent pas forcément en situation de concert. Donc la musique dans la vie. Et où est-ce qu'on va au coin de la rue? C'est interdit, vous ne faites pas de musique dans la rue déjà. Bon, alors, dans les parcs, on n'a pas le droit, sauf le 21 juin. Et là, il faut s'éloigner. Alors, il faut aller dans le monde entier et puis voir où les musiques sont dans la vie. Et puis essayer de trouver les musiques traditionnelles ou néo-traditionnelles. Et puis voir qu'est-ce qui se passe. Et on s'aperçoit que les gens ne sont pas en position frontale avec des gens assis en auditeur payant. Les musiciens sont autour avec les auditeurs, enfin les participants ou pas, qui sont autour, qui sont dedans. Et ben voilà, une chose qu'elle est intéressante pour quelqu'un qui veut faire une captation d'un champ sonore à 360 degrés dans les deux sens, même si en haut on peut penser qu'il se passe pas grand chose, c'est pas tout à fait vrai. Et donc voilà, je suis allé, je parle, on pourra éventuellement écouter ça, je suis allé à Cuba, voir les paysans qui jouent la musique traditionnelle avec des cordes en chantant, et puis ils sont assis en cercle, et puis le lendemain il y a carnaval et ils vont jouer les mêmes, ils vont jouer la musique de carnaval en défilant. Avec environ 100 dB de différence de pression acoustique. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? C'est facile quand ils sont stables et assis. Je vais me mettre au-dessus d'eux, dedans, face. On peut tout essayer. Et tout est faisable avec notamment le système que j'utilise, que je n'ai pas inventé, qui est un ST350. Soundfield, on a un préampli et on sort 4 canaux format B et je rentre sur un enregistreur multicanal et boum, et je perche éventuellement si je ne peux pas me mettre dans le nez. Je joue aussi le mixage à la distance, comme on le ferait en stéréo, en vrai stéréo. C'est-à-dire que si j'ai, vous êtes mon orchestre, si je me mets devant, je vais avoir les gens de devant qui vont être plus forts puisqu'ils sont plus près. Alors si je veux avoir les gens qui chantent aussi fort et pas plus que celui de devant ou qui tape sur un tambour, je vais être obligé de me rapprocher de celui qui est derrière. Mais si je me rapproche de celui qui est derrière, je vais me rapprocher aussi de celui qui est au centre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de m'élever pour essayer d'avoir à peu près la même distance entre celui qui est devant, même si je vais l'avoir de dos. Celui qui est derrière, celui qui est au centre, celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Et en essayant de trouver le point de captation, je me suis aperçu que, comme pour Jean-Marc Lotel, en perchant, puisqu'on va avoir du mal à creuser en dessous les musiciens, en perchant et en trouvant une espèce de compromis, on va pouvoir capter des champs, des sources en fait multiples, assez facilement, plutôt que de mettre des micros sur tout le monde, et puis d'essayer de recréer la balance du batteur. Ah oui, non, attends, nous, je vais te faire un beau son. Le pauvre batteur, il a travaillé 20 ans sa batterie, et puis c'est pas la peine. C'est pas tout à fait vrai, mais... Alors, je me suis aperçu d'une chose, vous verrez sur le terrain, si vous faites de la prise de son, vous allez en Mongolie extérieure, et vous mettez votre micro à 3 mètres du chanteur. Et alors lui, il n'a pas l'eau courante, hein, il n'a pas l'électricité, il se chauffe avec du crottin de cheval, mais il voit le micro à 3 mètres, et il se dit, ah bah oui, mais il n'y a pas de son, là, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Et il va se rapprocher pour prendre le micro comme à la télévision, parce qu'il a vu une fois le micro. Et vous allez dans le monde entier, tout le monde, pensent que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire un micro en proximité, bien en mono. Alors il faut les convaincre, parce que si c'est loin, il n'y a pas de son. Alors il faut leur mettre, faire une prise de son, leur coller le casque bien fort, et puis là, d'un seul coup, c'est plus fort et mieux que la réalité, donc c'est forcément bien. Donc il faut les convaincre eux, ensuite il faut convaincre le producteur, et alors on a des producteurs qui sont convaincus, je leur ai fait écouter déjà les prises de son, des choses que j'ai faites, qui sont mixées en 5 points ou en stéréo, voire en 8. Ils sont convaincus, mais on arrive sur le terrain et dire « Est-ce que tu es sûr que tu vas l'avoir, la flûte, là-bas derrière ?» Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit, on essaie de reprendre à zéro, lui dire « T'inquiète pas, moi je peux guérir le cancer avec l'ambisonique, donc on va coller des micros d'appoint pour être copain avec lui et puis être tranquille. » Alors, ça marche dans ce sens-là, mais c'est aussi nous, après, au mixage, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces micros d'appoint ? Parce qu'on les a vraiment pris, on a mis des couples, on a fait ça soigneusement. Est-ce qu'on s'en sert ? Jean-Marc Lotel l'a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin, avec tous les outils qu'on a, on peut recréer virtuellement ces micros d'appoint. On peut se rapprocher, mais en même temps, est-ce que c'est les mêmes micros ? Est-ce qu'il n'y a pas la question de la distance, des réflexions ? Alors, je me suis aperçu que je suis en train de dire tout et son contraire, qu'on peut le faire avec les outils qu'on a, on peut faire de la multimono ou la multistéréo, et en même temps, quand j'ai rajouté des couples, je me suis aperçu que ce n'était pas le même micro que le Soundfield, ce n'était pas les mêmes cellules, ce n'est pas la même technologie, ils ne sont pas au même endroit vraiment, situés au même endroit dans le champ sonore. Alors, il y a toujours un mur, un parquet... le dos des musiciens qui sont devant les autres. Et donc, voilà. Encore une fois, je dis tout et son contraire. Je me suis aperçu que quand je perchais avec mon Soundfield, j'avais tout, je pouvais tout faire. Mais quand je mettais à mi-chemin, à peu près sur le même plan acoustique, quand je mettais un petit couple comme ça d'appoint, je me suis aperçu que, comme c'était, par exemple, je faisais un couple RTF avec des M160 Beyer à ruban, que quand j'écoutais les Beyer tout seul, je dis « Ah, c'est beau quand même !» Parce que moi, je considère qu'on fait de l'irréel, de toute façon, on est plus ou moins loin de la réalité, et que les micros, ça peut être aussi des instruments de musique. Ça peut sonner, on peut se faire plaisir, on peut se chatouiller l'oreille avec, et là, ça chatouille bien. Le ruban, c'est bien, c'est très cohérent, c'est assez doux. Le Soundfield, c'est des statiques quand même. Donc on peut parfois avoir une bande passante qui est un peu excessive. Enfin, pas excessive, mais qu'on entend. On entend que qu'on a fait la prise de son pour les éléphants, les baleines ou pour les chauves-souris aussi. Alors que dans la musique, c'est en fait 90% du message, il est le message musical, il est dans le médium, finalement. Et donc, ces micros posés sur la perche, évidemment, ça alourdit un petit peu, mais finalement, c'est pas si mal. On peut rajouter un petit peu dans notre cuisine finale. Tiens, fais voir, toi, c'est du poivre noir, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah oui, mais moi, j'ai du poivre rouge, là, un petit peu, là. Fais voir, d'un seul coup, boum, on met tout en valeur, avec un apport moindre, souvent d'un petit couple. Je vais vous donner, moi, ma configuration, qui est, encore une fois, tout et son contraire. Le Soundfield, sur le même plan, avec des gens autour ou pas, puisqu'on peut être dans un lieu qui peut aussi faire de la musique tout autour. Un couple ORTF sur le même plan sonore que le Soundfield, qui peut être monté au-dessus si on a des gens qui se trouvent en dessous, au centre. Et puis derrière, avec la règle du 1/3, que vous connaissez sûrement, il faut s'éloigner quand on met des couples, il faut éviter de les rapprocher les uns des autres, sinon, en mono, déjà, on a un problème. En stéréo, c'est si on est décalé, enfin, on fait les apprentis sorciers. Donc je me mets au moins à 3 mètres derrière le Soundfield, et je mets... Alors, dernièrement, j'utilisais un Soundtronix, c'est l'Apollo, qui est un ruban, c'est un double ruban, enfin un ruban stéréo en Bloomline, hein, donc 90 degrés, donc qui est censé faire ce qu'on capte aussi avec le Soundfield. Mais comme il n'est pas au même endroit, on va avoir une autre couleur qu'on peut éventuellement ajouter. Donc je suis sur 8 canaux. Et alors, ça rassure tout le monde, les musiciens, sauf que, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, on n'a pas de monitoring. On a essayé de monitorer avec des, vous savez, les casques 5 points, qui sont d'ailleurs pas pour l'audio, c'est pour le jeu, hein, c'est sur les consoles de jeu. Hein. Si on vend des casques 5 points, autrement on n'en a pas. On n'en a pas parce qu'il n'y a pas de système de reproduction et puis qu'il n'y a même plus de support maintenant. Il y avait le SACD, ça n'existe plus. DVD audio, on en parle. C'est que celui qui en a un ici... lève la main. Je... Oh, il en a un, deux. Alors, il nous reste le Blu-ray. Le Blu-ray, pour la musique, ça n'a pas encore démarré. Hein. Il y en a peut-être dans le commerce des disques de musique en Blu-ray. Il doit y en avoir un, deux. Donc, quand on fait de la musique et qu'on essaie de faire les prises de son bisonique, qu'est-ce qu'il nous reste à faire après? Ben, c'est mixer en 5 points pour le mieux quand on a de l'image ou pas. Ou en stéréo. Alors, il me dit, encore une fois, il dit tout et son contraire. Ça ne sert à rien, tout ce bazar, pour arriver à faire deux canaux, quoi, après. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un. Il disait, mais pourquoi aussi est-ce que tu fais du 24-96 à la prise? Parce qu'après, tu vas retourner à 16, enfin, en tout cas pour le CD, 16-44-1, ça ne sert à rien. Tu vas avoir des conversions de format, des machins. Mais tout le monde, enfin, je pense que vous avez fait l'expérience. Il se trouve que, je n'irai pas jusqu'à dire qui peut le plus, peut le moins, mais vous faites directement la prise en 16-44-1, vous n'avez pas le même résultat après que celui qui est donné par la prise en 24-96 descendue de format. On a la chance d'avoir des bons convertisseurs, je ne sais pas, mais... ça marche mieux, et donc ça marche mieux aussi, même pour la stéréo. Je pourrais vous faire, on écoutera si vous voulez, des productions qui sont à la fin du CD, mais qui ont été des prises en bisonique. Je me suis amusé à faire la multimono, c'est-à-dire mettre des micros sur tout le monde, mixer à la manière traditionnelle, comme il faut, avec de la réverb, des choses comme ça, compressées, corrigées. Et puis la même prise en bisonique, mixée en stéréo à la fin aussi, en vrai stéréo. Et bien là aussi, c'est le jour et la nuit. Donc je vous invite à faire l'expérience. Donc on est gagnant, même quand on redescend les formats ensuite, que ce soit les formats en termes de définition ou simplement en nombre de canaux. Alors ça, c'est un argument. On arrive, maintenant j'arrive, il n'y a pas beaucoup de disques qui sont faits de cette manière-là, avec cette méthode. Donc j'en amène chez Okora. Voilà, on a fait ça à Cuba, j'ai fait ça en Algérie avec les flûtes, on pourra avoir éventuellement. Et comme on a fait un petit DVD avec les flûtes Gazba, on a filmé les musiciens, et comme ça, on a pu mettre du... puisque c'est un DVD, on a mis du 5.1. Donc j'ai mixé l'ambisonique, donc à l'horizontale, évidemment, hein, en 5.1. Et puis on a fait l'expérience avec Jean-Marc Lotel. Vous prenez le même, vous le décodez et vous mettez en cube 8. Et là, vous avez les larmes aux yeux, je vous assure, faites l'expérience. Venez, c'est gratuit, c'est gracieux. Venez vivre cette expérience du son en 3D. Parce que, évidemment, quand on est bien positionné, qu'on a des bonnes enceintes aussi après, on a les micro-informations, notamment de transitoire. Donc, on ne bouge pas l'avant et l'arrière des enceintes, et ce qui se passe entre les enceintes. Donc on a vraiment la sphère à partir du cube. Je vous invite à le faire, et alors, pour votre malheur, vous aurez du mal à revenir en arrière après. Vous le ferez quand vous serez contraint de le faire, ou quand ça sera notamment une contrainte de genre, de style, parce que c'est le style. Maintenant, en effet, notre oreille est multimono. On aurait du mal à écouter du rock des années 70 enregistré de cette manière-là, mixé de cette manière-là, en surround. Est-ce que ça aurait un sens ou pas, enfin, mais on aurait du mal, on est très habitué à ça, comme ont été habitués beaucoup de gens. Je parlais des Beatles, mais évidemment avant on enregistrait, on mixait et on avait des supports mono. Il y a des gens qui ont encore du mal à écouter en stéréo, ou en gauche-droite en tout cas. Alors j'avais aussi un autre exemple. Je suis allé sur une production de musique traditionnelle profane corse. Donc on a les polyphonies, on a ces instruments à cordes. Je me suis retrouvé donc en Corse dans un studio. J'ai dit, voilà, ça sert à quoi? C'est pas la peine de me faire venir. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Déjà, on va retirer tous ces SM57 devant la mandoline, déjà. Et je fais l'expérience, parce que j'ai la chance de pouvoir enseigner. Et donc, j'ai des étudiants qui arrivent, qui ont 3 mois de pratique et qui sont déjà des ayatollahs du la multimono. C'est-à-dire qu'on peut... Ils ont déjà toutes les méthodes. Ils sont déjà formatés complètement. Alors, encore une fois, moi, j'ai rien contre ce formatage-là, mais qu'on en reste là, je trouve que c'est un peu comme les films, j'en parlais tout à l'heure, les films néo-réalistes, je trouve ça tellement vieillot de ne procéder que comme ça, d'être bloqué là-dessus. Voilà, comme si on en était encore à manger la potée au chou uniquement. C'est très bon, la potée au chou. Mais c'est que ça, taisez-vous, vous mangez que ça, parce que c'est ça qu'on mange. Bah d'accord. Alors on s'est habitué à manger des fraises en hiver. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais pas de fraises du tout. Je trouve ça assez gênant. Alors je vous le recommande pour ceux qui aiment ce type de musique. Ce sont des paysans du centre de l'île de Cuba qui font une musique qui est plus proche de la musique espagnole du 17e, 18e siècle. C'est pas vraiment la musique afro-cubaine, mais il y a quand même les syncrétismes cubains, c'est-à-dire que ça swing terrible. Et il n'y a pas besoin de percussion forcément pour que ça swing. Et suffit. Alors voilà, un petit bout d'un trio, si on y arrive. C'est des trios à cordes. Donc on s'est mis dans un théâtre genre l'Olympia, sur une scène, et je me suis mis à 3 mètres devant eux, et je leur ai demandé de se mettre comme ils se mettraient pour jouer entre eux, c'est-à-dire face à face. Quand vous avez un trio, face à face, vous en avez deux qui sont un à gauche et un à droite, face, et non pas vers la salle. Et puis vous avez celui qui est au centre, qui est aussi face, pratiquement face aux deux. Et donc ils s'entendent, ils se voient du coin de l'œil ou pas. Et ils ont une vraie balance d'orchestre. Donc on ne va pas la refaire, il suffit de la capter. Donc je me mets légèrement au-dessus pour éviter d'avoir trop de la scène du parquet en bois, qui sonne très très bien, mais je me mets légèrement au-dessus, et avec mes histoires d'appoint pour leur faire plaisir. J'avais amené aussi, encore une fois je dis tout et son contraire, je fais souvent écouter des MP3 pour leur dire voilà ce qui va rester à la fin. Et quand vous partez d'une captation, on n'a qu'à l'appeler riche, MP3, alors sauf si vous avez un orchestre symphonique ou vraiment des gens qui jouent au taquet. Et là évidemment, un phénomène psychoacoustique, vous avez les codecs qui vont supprimer plein de choses. Mais sur des musiques acoustiques relativement, je dirais, simples, ça se passe assez bien. Tant pis pour les Cubains. Ça, ce sont des paysans aussi, des chaouis. Donc, ils sont méprisés parce qu'ils ne sont pas arabes, ils sont berbères, enfin. Et ils jouent de flûte, alors ça se passe à l'est de l'Algérie, près de la Tunisie. Et puis, on descend un peu plus au sud. Et ces gens-là jouent d'une flûte, notamment, qui s'appelle la flûte Gazba qui veut dire roseau, qui font une musique, c'est merveilleux. Mais c'est pareil, ils sont souvent par couple de flûtes avec des bendirs. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'avais un assistant local qui n'était pas plus ni moins que les autres embarrassé des méthodes traditionnelles, qui disait oui, mais c'est un disque de flûte, donc il va falloir mixer parce que les bendirs sont trop forts. Alors, si les bendirs sont trop forts, c'est qu'ils jouent trop fort. Ça fait 500 ans qu'ils jouent trop fort. Pourquoi ils jouent trop fort? Pourquoi est-ce que nous, on va les mixer? Pourquoi? Parce que c'est un disque de flûte. Bon, alors on fait un compromis, on met les bendirs un peu plus loin. Alors j'ai une petite anecdote très drôle. Donc vous avez un chaoui avec le turban, qui est endimanché, qui est super beau, qui fait une musique fabuleuse, et puis il ne voit pas le micro, donc il est gêné. Et puis il dit, ouais, moi j'ai un studio chez moi. Il a un studio chez lui. Et en fait, c'est son fils qui a monté un studio. Alors, vous avez une enceinte ici, une enceinte là, mais bon, c'est pas pire. Et surtout, la production, c'est autotune. C'est-à-dire vous êtes dans les Aurès, dans la montagne, et c'est vous entendez autotune, comme ici, quoi, pas ni plus ni moins. Sauf que vous êtes en pleine campagne algérienne. Il a l'électricité, mais voilà, il est déjà formaté et donc obligé de lui remettre dans l'oreille, encore une fois un peu fort, ce qu'il a joué. Non, mais c'est très bien. Attention aux oreilles. Qu'est-ce que t'as pris là? Ben c'est exactement, voilà, c'est dans le propos, c'est tout à fait intéressant. Voilà, là on avait, bon moi j'ai pas mangé de choses très très bonnes en Algérie, mais c'était quand même mieux que McDo. Et là c'était McDo, flûte Gasba, bah non. C'est le DVD que tu as pris, ça doit être le son du menu de la maison de disques. Donc non, DVD. Kiss Kiss Bang Bang Spécimen, c'est pas moi. Là, pour une fois, le titre va bien avec la musique. Enfin, tu pourras me faire une copie. Donc le DVD, j'ai mixé en 5-1 et je me suis retrouvé devant le problème du 5-1. 5-1, voilà. C'est du surround.
Quelle piste, tu
première. Allez. Alors, ils sont obligés de parler en arabe aussi, ce qui est très bien, ils sont très heureux, mais... On leur interdit de parler en kabyle, et quand ils vont en ville, ils planquent les flûtes et ils retirent le... parce que, évidemment, ils sont un peu méprisés. Et en plus, c'est des musiciens, donc les musiciens, c'est forcément le mal. Alors, sa musique soufie, hein. Et même là en stéréo, il y a la profondeur de champ. Je sais pas, hein, je suis derrière, mais... Alors, évidemment, on retrouve du 6-8 pour danser, mais c'est quand même des musiques qui sont très sacrées, donc c'est pas forcément pour faire la fête. Donc je vais aller chercher quand même un truc qui est plus réjouissant. Alors, ce qu'on entend, les rotations de phase, c'est eux, c'est les gens qui jouent et qui bougent la tête. Et comme ils ont les mêmes flûtes et qu'ils jouent à l'unisson, vous avez ce phénomène. Hein, donc... Alors comme ce sont aussi des montagnards, ils ont la voix qu'ils portent. Alors je ne sais pas si on pourra regarder tout à l'heure un DVD avec le 5-1 là-bas. Vous verrez que là, moi je suis sourd à l'arrière. Il me manque toute la... On est dans un riad, c'est fantastique, ou dans un tombeau de marabout. Il y a les murs, il y a les tapis par terre, il y a tout ça contribue à un son bien particulier. Quand on n'a que l'avant, on n'a que les flûtes. D'accord, un peu comme si on avait du pain, mais sans la cuisson, quoi. Il me semble, la farine, le sel, l'eau, c'est bien, mais c'est pas du pain. Moi, il me manque... plein de choses. Donc là, on a le message musical. On a une sorte d'impression. En plus, là, les enceintes sont bien, bien séparées. Donc là, tu dois avoir ton oreille gauche. Alors, puisque ça marche, je vais vous donner un autre exemple. Il faut que je fasse kit. Alors, un troisième petit exemple, et je vais m'arrêter. Après, voilà, je suis sambiste, c'est-à-dire je joue du samba. Je suis tombé amoureux du pays, du Brésil, des Brésiliens, de la musique, des Brésiliennes aussi, les vraies ou les fausses, à partir début des années 80, et je me suis retrouvé à défiler comme percussionniste dans les écoles de samba à Rio pendant Carnaval. Et là, c'est une expérience, c'est difficile à raconter ou à même reproduire. Donc on est au milieu, 300 percussionnistes. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, 300 percussionnistes, qui sont au taquet, hein, parce que c'est dehors. Et puis plus on est fort et mieux c'est. Et évidemment, c'est des instruments acoustiques, il faut se battre avec la sono, etc. 300 percussionnistes, c'est 20 mètres sur 60, hein, faut imaginer. Donc quand vous êtes devant, vous entendez le premier rang. Quand vous êtes dedans, moi je joue du sourdo, j'entends mon sourdo, mon voisin de gauche, mon voisin de droite, éventuellement un petit peu celui qui est devant, mais il est bouffé, et celui qui est derrière, qui est trop fort, qui me casse la tête. Mais je n'entends pas la batterie, ça s'appelle. Donc j'aimerais bien, comme eux, ils font des enregistrements de samba en studio, ils prennent 15 musiciens, ils mettent beaucoup de réverb, et c'est tout plat, c'est en deux dimensions, dans tous les sens, c'est à plat. C'est pas du tout le son que j'ai quand je joue, ou quand je les vois passer. En plus, c'est en défile. Alors, j'ai utilisé ce système-là, qui maintenant a été repris par TV Globo, pour la batterie. Donc, je l'ai fait pendant plusieurs années, gracieusement pour eux. Et puis, une année, je ne suis pas venu. Et puis, ils se sont dit, tiens, il n'est pas là. Et bon, ils ont vite été s'acheter un Soundfield. C'est un Sound Devices. Et puis, le décodeur. Et puis, hop. Et maintenant, ils font de la retransmission, au moins pour le son. Ils ont la batterie dans leur ensemble. Parce qu'avant, ils mettaient... Vous savez, quand je joue du sourdo, on est 30 sourdos. Donc, il suffit, pour avoir le sourdo, il suffit de mettre un micro sur un des sourdos. C'est ce qu'ils faisaient. Donc, vous entendez tic, boum, tic, boum, boum, boum. C'est très bien. C'est passé dans la sono, ça va, c'est délayé. Mais ce n'est pas le son de la batterie. Hein. Et puis, bon, il fait 40 degrés à 3 heures du matin. 200% d'humidité dans l'air. Vous êtes content d'avoir qu'un seul micro au bout de la perche, hein, je peux vous dire. Alors, d'abord, ambisonique, dans une chambre d'écho. C'est-à-dire, c'est un hall d'entrée en marbre vert, etc. C'est la plus belle des réverbes. Voilà ce que ça donne. Si tu peux monter un petit peu. Pas d'égalisation, pas de compression, pas d'effet. Un Soundfield. Et même en stéréo, je peux vous dire que ça... Alors attention à vos oreilles, si je peux baisser un poil, je vais passer à 300 percussionnistes, c'est-à-dire on rajoute environ 400 personnes à lui, qui joue du cavaquinho. L'affront de... Un autre point de vue. Je suis descendu un peu. Voilà. Donc je suis plus près de certaines sections d'instruments. Donc on se rapproche de notre oreille occidentale. On est plus près de l'instrument. C'est plus intelligible pour nous. Mais il manque plein de choses. Donc là, je fais plaisir à ceux qu'on entend. Quand je leur fais des copies, ils sont contents avec ça. Vous entendez les chants derrière. Donc, imaginez la puissance. C'est un camion, il y a la sono qui est sur... Il y a 220 000 spectateurs. C'est en fait 4 ou 5 stades de France, mais tout en longueur. 6 000 défilants par école, 7 écoles par soir, des chars de 25 mètres de haut. Enfin, c'est le plus grand spectacle. Et vous avez un camion qui suit la batterie avec les chanteurs, cavaquinho, etc. Donc, vous voyez, on les entend à peine. Imaginez le niveau sonore. Alors, voilà un autre... Alors, là, le challenge, c'est que c'est dans une salle de spectacle. C'est sonorisé, il y a des retours partout. Tu peux monter un petit poil. Et moi, je n'utilise que mon micro. Donc c'est bien la preuve que la balance est mauvaise sur scène. Par contre, j'ai une bonne cohérence sur les percussions. Mais les voix, c'est dans la sono. Il chante un peu faux aussi, mais... Mais c'est tellement fort, c'est impossible de chanter juste. Alors, ça c'est un ex bricolé. Je voudrais peut-être terminer par une affaire de compromis. Voilà, une commande. C'est un ami que vous connaissez peut-être, qui est un fabuleux batteur et percussionniste, qui s'appelle Alex Acuña, qui a joué longtemps avec Weather Report, et qui fait énormément de choses, qui est péruvien et qui vit à Los Angeles. Et un jour, il vient me voir, il me dit « C'est bien ta méthode là, d'enregistrement, parce que nous, on veut garder notre équilibre. Quand on fait du latin ou des percussions, à chaque fois qu'on nous enregistre, on ne reconnaît pas notre son et nos équilibres. Donc, toi, tu peux le faire. Tu touches à rien, toi. Nous, on joue. Tu touches à rien. Donc, on aura la balance. Et en même temps, alors il me dit ça. Et en même temps, on va rajouter une basse. Et puis, on va rajouter, en re-re, on va rajouter des voix. Oui, c'est possible. Et donc, voilà. Donc, on fait les deux. Où est-ce qu'on tire avantage de faire pour les percussions? Donc là, c'est hybride. C'est hybride parce que c'est aussi mixé, c'est aussi compressé, égalisé. Mais regardez quand même la vie qu'il y a sur les percussions. Ouais. Toutes les percussions, c'est une prise, un micro. Et là, j'ai vu les sourires au mixage quand j'ai monté simplement du format B, boum. Ça dit, ah, touche à rien. Parce qu'on a, avec la profondeur de champ, on a la profondeur de champ sur l'instrument. Donc on a la vraie dynamique. Et donc le timbre est assez réaliste. Alors ça demanderait aussi d'avoir une écoute, peut-être haute sensibilité. Là c'est des petites boîtes. C'est des boîtes qui sont plus petites que les instruments. C'est les 24 heures du Mans dans sa cuisine, quoi. Alors, petit extrait. La même chose. Donc là, on a la pièce. Il se trouve qu'elle sonnait bien. C'est le studio A chez... Ocean Way à Los Angeles. Et le studio, vous pouvez manger, dormir, là, ça sonne. Donc là, il n'y a que le sans-fil. C'est ramené en stéréo. Les voix ont été rajoutées. Il y avait des voix au départ, mais... Alors pareil, on a pris des habitudes avec le cajon, on met des micros dedans. Il n'y a pas de micro dedans. Alors tout le reste, là-bas c'est avec eux. Au milieu des percussionnistes, sauf que j'ai trois pistes, encore une fois compromis. Trois pistes, ça, c'est une méthode que je n'ai pas inventée non plus, mais je suis un des seuls à l'utiliser. C'est trois pistes sur la basse. Boîte de direct, alors j'essaie de prendre une belle boîte de direct qui sonne bien, genre, je ne sais pas, à Valonne, à tube. Un micro à ruban, donc en 8, décalé devant le haut-parleur. Et puis, un couple, mais que je remets en stéréo, en mono, sur ses doigts. Et comme il repasse évidemment dans le soundfield, tout ça est bien, bien arrangé. Il est dans les percussions. Alors, il a une pédale d'octave. Hein. J'ai invité un génie de la prise de son et du mixage. C'est Al Schmidt, qui est mon voisin. Et il a vu la configuration. Ça ne l'a pas étonné, lui. Pendant qu'il jouait, il s'est mis à quatre pattes pour aller écouter. Ce que l'assistant n'avait même pas fait. quand je faisais la prise de son, j'ai été poser les trucs. Je disais, qu'est-ce que c'est que ce français là? Il fait n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on fait. Bon, il a un peu changé d'avis après, mais quand même, les habitudes, c'est dur à se défaire. Et encore une fois, une habitude ou des habitudes, des automatismes, c'est parfait quand on peut en changer, quand on peut aller à l'inverse, au contraire, éventuellement. Et Al Schmitt, le premier, lui, et pourtant il a le palmarès, à chaque séance, j'ai été voir les séances qu'il fait, il se remet en question, il essaye, il va crapahuter, il reste pas derrière sa console, à laisser faire l'assistant, faire comme il faut. Voilà, je vous remercie de votre attention.
On a écouté quand même, hein ? Bravo.
Autre radio, autre culture.